Bonjour, à l'occasion du mois du matrimoine, nous allons aujourd'hui vous présenter quatre podcasts audio. Matrimoine, de mater, matrice, la mère en latin, est un mois dans lequel les femmes fortes, donc qui ont contribué à faire avancer le monde, sont mises en avant. C'est donc pour cela qu'aujourd'hui nous allons vous présenter ces quatre podcasts, dans l'ordre respectif Maë, Baptiste, Nathanaël et Clément, dans lesquels nous allons présenter du coup chacun une femme forte. Je t'en prie Maë, tu peux commencer.
Bonjour, je vais vous présenter la vie de Joanne Clark. D'où son vrai nom, Jeanne Elizabeth Murray Clark, née le 24 juin 1917 et morte le 4 septembre 1996 dans le quartier londonien de West Norwood, fille du vétéran William Clark et Dorothy, connue pour sa participation au décryptage de la machine Enigma qui codait les communications chiffrées lors de la Seconde Guerre mondiale. Étant petite, elle a étudié les mathématiques et les sciences, des sujets qui la passionnent. Joanne Clark était une mathématicienne et cryptanalyste britannique née en 1917 pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a travaillé à Bletchley Park, un centre secret où des experts tentaient de décrypter les codes nazis. Joanne a fait partie de l'équipe qui a décrypté la machine Enigma, utilisée par les Allemands pour envoyer des messages qui doivent rester secrets, qui changeaient chaque jour. Elle a travaillé aux côtés d'Alan Turing, un célèbre mathématicien, et a beaucoup aidé à comprendre les stratégies ennemies. Bien que son travail ait été crucial, il est resté inconnu pendant longtemps. Joanne était très talentueuse, mais les femmes avaient rarement été reconnues à cette époque. Après la guerre, elle a continué à travailler dans les mathématiques et a eu une carrière réussie. Elle est décédée en 1996.
Eh bien, merci beaucoup Maë pour ce premier podcast. Désormais, nous allons accueillir le second podcast de Baptiste. Je t'en prie, Baptiste, quand tu veux, commence.
Bonjour, je vais vous parler de Hubertine Auclert. Hubertine Auclert est une journaliste, écrivaine et militante française, née le 10 avril 1848 dans l'Allier. Elle est née dans une famille plutôt aisée. Elle passera la majorité de sa scolarité dans une pension religieuse à Montmarault. Et à la fin de ses études, elle souhaitera devenir nonne. Mais elle sera refusée deux fois, en 1864 et 1869, car elle était jugée trop mystique et trop indépendante. Pour trouver un travail, elle se rendra à Paris, où elle rentrera au journal L'Avenir aux côtés d'autres féministes reconnues, comme Léon Richer. C'est à ce moment-là qu'elle s'engage dans le mouvement pour défendre les femmes de manière plus radicale. En 1881, elle se sépare du journal L'Avenir pour lancer son propre journal, La Citoyenne. Et en 1884, elle dénonce la loi sur le mariage qu'elle juge défavorable aux femmes, et elle propose donc un contrat de mariage avec séparation de biens. En 1888, elle se rend en Algérie avec son époux Antonin Levrier, où elle publiera Les femmes arabes en 1900. Les femmes arabes dénoncent le double patriarcat que subissent ces femmes en Algérie, d'un côté par les hommes blonds et de l'autre par leurs maris. Des raisons financières la poussera à arrêter la publication de La Citoyenne, mais cela ne l'arrêtera pas dans son combat. En 1908, elle permettra aux femmes d'obtenir le contrôle de leur salaire, ce qui n'était pas possible avant. Pour continuer à se faire entendre, elle n'hésitera pas à mener des actions extraordinaires pour défier les autorités, comme causer du chaos lors des cérémonies de mariage, se présenter aux élections législatives. Bien que cela ait été illégal, elle obtiendra quand même 590 voix. Pendant les élections municipales, elle se rendra dans les bureaux de vote pour renverser les urnes. En 1904, pour le centenaire du Code Napoléon, elle se rendra avec une cinquantaine de femmes sur la place Vendôme pour brûler le Code civil. Elle meurt finalement le 8 avril 1914, près de 30 ans avant que les femmes ne puissent voter. Elle est aujourd'hui enterrée au cimetière du Père-Lachaise. Hubertine Auclert persiste dans la mémoire collective comme une féministe radicale qui n'hésitait pas à défier les autorités. Elle permet aux femmes d'obtenir beaucoup plus de droits et jouant un très grand rôle dans le combat pour le droit de vote des femmes.
Eh bien, merci Baptiste pour pour ce magnifique podcast. Nous allons maintenant accueillir le troisième podcast. Je t'en prie, Nathanaël, c'est quand tu veux. On t'attend.
Bonjour, et aujourd'hui je vais vous présenter George Sand. George Sand est né le 1er juillet 1804 à Paris et meurt le 8 juin 1876 à Noainvic. De son vrai nom Aurore Dupin, elle utilise ce nom pour semer le trouble quant à son identité, pour augmenter ses chances d'être publiée dans un univers de l'édition masculin. C'est une romancière, dramaturge, épistolière, critique littéraire et journaliste de nationalité française. Elle naît de parents venant d'origines sociales différentes, de son père Maurice Dupin de Franqueuil, militaire dans l'armée impériale et aristocrate cultivée, et de sa mère Sophie-Victoire Delaborde, qui n'était, en revanche, qu'une simple couturière. À ses 4 ans, elle perd son père et est alors confiée à sa grand-mère paternelle, qui était une aristocrate éclairée. Elle passe sa scolarité comme pensionnaire au couvent des Augustines anglaises. À ses 17 ans, durant son entrée dans la vie adulte, elle perd sa grand-mère et hérite du domaine familial. Elle se marie rapidement avec le baron François-Casimir Dudevant, avec qui elle a eu 2 enfants, et qui, pendant ses années de mariage, fait surtout l'expérience des injustices et des servitudes de la condition féminine et découvre les difficultés du code Napoléon qui prive la femme de tous ses droits pour les donner à l'homme. En 1832, à ses 28 ans, elle publie son premier livre sous le nom de George Sand, nom qu'elle a gardé du jeune étudiant Jules Sandeau, avec qui elle a écrit des articles de presse et des romans. Et pour le prénom, elle l'emprunte au genre masculin. Elle écrit comme œuvre principale Indiana en 1832, La mort au diable en 1846, La petite fadette en 1849 et Histoire de ma vie en 1855. Naissant de 2 classes sociales différentes, George Sand devient une écrivaine engagée. Elle est à elle seule une synthèse des opposés sociaux, politiques et économiques de son siècle. En 1873, lors de sa fin de vie, elle arrête d'écrire intensément ses romans pour s'occuper de ses petites filles. En 1876, à ses 72 ans, elle décède suite à une occlusion intestinale et fut enterrée dans le cimetière familial. Quelques mois après, ses derniers romans paraissent. De nos jours, George Sand persiste dans la mémoire collective pour avoir été une écrivaine libre à une époque où les femmes françaises ont encore peu de droits.
Eh bien, merci beaucoup, Nathanaël. C'est donc désormais à mon tour de présenter mon podcast. Donc, c'est parti. Quand on parle d'une œuvre, la plupart d'entre vous ignorent l'artiste et son histoire. Je peux par exemple citer Frankenstein. Connaissez-vous le nom de l'auteur de ce récit? Que la réponse soit positive ou négative, laissez-moi vous conter l'histoire de Mary Shelley, créatrice de l'histoire de cette créature que nous connaissons tous. Mary Shelley est une écrivaine britannique née à Somerstown, à Londres, le 30 août 1797. Fille de l'écrivain politique William Godwin et de la philosophe féministe Mary Wollstonecraft, à l'âge de seulement 11 jours, la jeune fille perdit sa mère. Durant son enfance, elle lisait constamment dans la bibliothèque de son père. Ce dernier lui faisait d'ailleurs l'école à la maison. Plus tard, Marie participait aux discussions politiques que son père avait avec ses amis. Amis dont faisait partie Percy Bysshe Shelley. Elle tomba follement amoureuse du jeune homme qui avait 20 ans. Malheureusement, son père s'opposa à cette relation, ce qui entraîna la fuite des deux jeunes gens en Europe accompagnés par Claire Clermont, la demi-sœur de Marie. Mais, l'argent venant à manquer, ils durent rentrer en Angleterre. En 1815 naquit leur premier enfant, qui mourut quelques jours plus tard, en 1816. En 1816, leur deuxième enfant vient au monde. Quelques mois plus tard, Lord Byron lança un défi aux jeunes voyageurs. Écrire l'histoire la plus terrifiante possible. C'est donc grâce à ce défi qu'apparut l'histoire de Frankenstein, 2 ans plus tard, en 1818. Marie donna naissance à un troisième enfant qu'elle appela Claire. Ils partirent s'installer en Italie. Malheureusement pour le couple, leurs deux enfants décédèrent durant le séjour. En 1819, elle donna naissance à un quatrième enfant, Percy Florence Shelley. Par malheur, en 1822, l'écrivaine perdit son mari dans un naufrage. Elle part finir ses jours en Angleterre en compagnie de son fils. Elle s'éteignit le 1er février 1851 à Belgravia, à Londres, suite à une tumeur cérébrale, laissant derrière elle une bibliographie comportant notamment Frankenstein ou le Prométhée moderne et Le dernier homme qui parut en 1826. Elle persiste dans nos mémoires grâce au monstre de son livre Frankenstein. Elle est aussi considérée comme la pionnière des récits de science-fiction. Quelle que fût votre réponse autrefois, vous connaissez désormais l'histoire mouvementée de Mary Shelley, l'auteur qui créa un monstre que tout le monde connaît. Eh bien, merci de votre écoute à tous. Ce fut un plaisir de vous présenter ces 4 podcasts. Au revoir.